Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Le sermon sur la montagne est à la fois le commencement et un sommet de l'enseignement de Jésus. La proclamation des béatitudes en est la fine pointe indépassable. On imagine la foule des disciples et des curieux rassemblés autour du maître sur une douce colline de Galilée. Ce qu'il leur dit, ils ne l'ont encore jamais entendu. Il leur parle du royaume de Dieu comme jamais personne ne l'a fait. Il est question de justice et de bonheur pour les pauvres et les affligés, de bénédiction pour les doux, les miséricordieux et les artisans de paix. C'est le monde à l'envers. Beaucoup sont fascinés par Jésus et se prennent à espérer. D'autres sont sceptiques. Ces belles promesses sont-elles réalisables? Nous relisons ce grand texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12 dans la Bible de Jérusalem. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. » Cet enseignement de Jésus rapporté par Matthieu nous est très familier et nous savons qu'il existe une autre version de Luc qui présente quelques différences. Alors que Matthieu énumère 9 béatitudes, Luc n'en reprend que 4 sur les pauvres, les affamés, les affligés et les persécutés. En revanche, il ajoute 4 malédictions qui n'existent pas chez Matthieu et que je lis. « Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. » Malheur à vous qui êtes repus maintenant car vous aurez faim. Malheur vous qui riez maintenant car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière en effet que leur père traitait les faux prophètes. Les exégètes évoquent souvent une source commune aux deux évangélistes. Que sait-on aujourd'hui, père Alain, de l'origine de ces deux versions ? Y aurait-il eu une version primitive perdue plus proche des paroles de Jésus?
C'est difficile de répondre à votre question. On a tellement travaillé depuis le 19e, l'origine et les rapports entre ces textes. Ce qui est sûr, ce qu'on peut dire au moins avec certitude, c'est que les béatitudes, peut-être dans la version de Luc, seraient plus archaïques d'une certaine façon, mais je pense que on ne pourra jamais retrouver la formulation exacte que Jésus a donnée, car on peut penser, quand on essaie de se souvenir du parcours de Jésus, qu'il les a dites plusieurs fois, c'est-à-dire Jésus n'a pas dit cela dans une seule fois. À chaque moment, quand il rencontrait des foules différentes, peut-être dans des formulations d'ailleurs différentes, il a donné cette formulation. Mais Ce qui fait évidemment la grandeur de ces textes, c'est qu'ils ont traversé, on pourrait dire, toute l'histoire du monde depuis 2000 ans. C'est le cœur de l'Évangile, il est là. Et donc, quels que soient nos jugements, quelles que soient nos appréciations, il reste que on n'aura jamais fini de méditer sur ces textes et peut-être d'en découvrir la signification, ce que nous allons un peu essayer de faire entre nous, même si c'est rapidement.
Alors, ces deux versions, effectivement, là, la comparaison n'est pas forcément facile, elles semblent s'adresser à des publics différents. Matthieu parle de ceux qui ont une âme de pauvre, on appelle souvent les pauvres en esprit, alors que Luc évoque plutôt les démunis, les exclus au plan matériel, allant jusqu'à maudire les riches et les repus. Qu'en est-il ? Peut-il y avoir finalement deux interprétations différentes du discours initial de Jésus que nous avons perdu, mais qu'ils ont entendu, eux ?
Depuis qu'on a fait la critique biblique, on s'est bien rendu compte que les évangiles sont marqués par, je dirais, trois lieux qui les influencent et qui peut-être nous empêchent parfois de retrouver l'original à l'état pur. Vous avez le fil narratif, l'histoire de Jésus, ça c'est le cœur de l'évangile. Donc ces paroles sont des paroles peut-être à analyser, mais ça c'est le premier élément. Ensuite, vous avez l'arrière-fond biblique, qui est toujours présent. Par exemple, cette idée « heureux », l'utilisation du verbe « heureux », c'est un terme qui est très biblique, qu'on trouve, j'ai eu la curiosité de regarder, on le trouve 45 fois dans l'Ancien Testament. Et sur les 45 fois, 26 fois dans les psaumes, ce qui nous dit bien qu'il y a une filiation entre les psaumes, qui est le Magnificat de tous ces pauvres qui ont chanté la gloire de Dieu, et nos paraboles. Jésus s'inscrit dans cette filiation-là. Donc, est-ce qu'on peut trouver la façon précise dans laquelle il a donné ces paroles ? Beaucoup sont tentés de penser que la formulation de Luc est plus schématique, est plus réduite. Elle est plus, je dirais, elle est plus politique aussi. Elle est plus marqué par la situation des pauvres, des vrais pauvres, ceux qui ont faim, avec cette opposition entre ceux qui ont faim maintenant et plus tard, le retournement. Alors que dans Matthieu, c'est évidemment beaucoup plus spirituel et se pose tout de suite la question de savoir, au fond, quelle est la version qui est la plus proche de Jésus. On aurait presque envie de dire, sans doute, que la tonalité de Matthieu est plus proche de celle que Jésus a dû exprimer. C'est-à-dire, c'est Luc, dans sa communauté de pauvres, va essayer de donner une espérance à ceux qui attendent le salut. On est impatient à l'époque de Luc, et on est impatient en se disant, mais quand c'est que ce que Jésus a dit va se réaliser ? Et du coup, il leur dit, oui, maintenant, mais plus tard, il y aura la justice qui va arriver. Ils seront récompensés, tous ceux qui sont pauvres maintenant, des pauvres matériellement. Alors que dans Matthieu, vous l'avez senti, c'est évidemment tout de suite une pauvreté spirituelle. C'est celle qu'on trouve dans les psaumes. C'est peut-être celle qui est le plus proche de Jésus.
Alors, ce mot « heureux » qui est répété 9 fois dans la version de Matthieu, il est quand même complètement paradoxal, puisqu'il ne désigne que des gens malheureux.
Oui, c'est pour ça que le faut se méfier des mots. Les mots sont toujours piégés selon les langues. En hébreu, le mot hébreu se dit « acheré ». Et il a une signification qui est assez différente de ce que nous mettons derrière. En hébreu, vous avez un jeu de mots qui est possible entre cette formule « acheré » qui peut vouloir dire « ils sont heureux » et en même temps « ils sont sur la bonne route ». Sont sur le bon chemin, parce qu'il y a l'idée de chemin. Être heureux, c'est être sur la bonne route. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est satisfait pleinement sur toute chose. Ça veut dire qu'on est certain d'être sur la bonne route, sur le bon chemin. Or, c'est très biblique, ça, cette dimension de la route. Dans les psaumes, par exemple, on évoque souvent, on est sur la route, Dieu nous a mis sur la route. Et c'est ça, la béatitude. Être heureux, c'est... Et ça concerne, on pourrait peut-être le dire en quelques mots, pour le reprendre après, parce que c'est souvent débattu, à qui s'adressent finalement ces béatitudes ? On a envie de dire, est-ce que ça s'adresse à une élite ? C'est tellement exigeant ce qui est dit là qu'on serait tenté de dire, ah ben non, il n'y a qu'une élite qui peut vivre ça. Et d'autres disent non. Et si vous regardez, vous l'avez cité tout à l'heure, l'introduction dans Matthieu, on dit « Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent. » Et donc, on serait tenté de répondre déjà à la question « Les béatitudes, c'est pour qui ? Est-ce que c'est pour une élite ? Ou est-ce que c'est pour tous ?» Alors, on peut avoir des opinions très, très différentes, hein, mais il est certain que la foule est là, mais Jésus s'adresse quand même davantage aux disciples, surtout dans Saint-Luc. Dans Saint-Luc, c'est plus direct. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait... Donc, alors, on peut débattre, et j'imagine que vous-même, vous avez votre opinion là-dessus. Les béatitudes s'adressent à qui, finalement ? À une élite ? Ou au contraire, à tout le monde ?
Peut-être les deux. Peut-être les deux, parce qu'on peut imaginer une grande foule qui n'était pas du tout homogène, où il y avait un peu toutes les profils, hein, de personnes un peu en recherche, finalement, d'un sens à leur vie.
Le royaume, il est pour tous. Hein. Mm. Le royaume, il est ouvert pour tous les croyants. C'est-à-dire, aujourd'hui, on serait tenté peut-être de revenir à cette vérité, que ça n'est pas un privilège, au fond, d'être dans le royaume. Je crois que c'est... Mais on pourra peut-être le nuancer un peu après.
Oui. Alors, il y a un autre mot, qui est vraiment un mot-clé, c'est le mot « justice ». Il apparaît, dans l'évangile de Matthieu, il apparaît à deux reprises, hein, à propos des affamés et assoiffés de justice et à propos des persécutés pour la justice. Donc, deux dimensions un peu différentes. Alors, quel est le sens de ce mot « justice » ? Est-ce qu'il s'agit de la justice des hommes, de la justice de Dieu, de quelque chose entre les deux ?
Moi, je serais tenté de penser que, au moins dans Saint Matthieu, ceux qui sont affamés de justice, ce sont ceux qui sont dans la lignée de la justice de Dieu. C'est-à-dire, on est dans la dynamique un peu des 10 commandements. Jésus, il s'inscrit dans la filiation des 10 commandements qui sont un engagement de fidélité à Dieu. Dieu qui a sauvé son peuple lui propose un engagement et avec des conditions, engagement envers Dieu, envers les frères, un peu comme ici, c'est-à-dire, mais Jésus va radicaliser cette exigence, c'est la loi évangélique, c'est la loi de la Bible, mais une loi que Jésus va spiritualiser à un point tel que on s'est beaucoup dispersé pour comprendre. Vous connaissez peut-être dans les débats qu'il y a eu, Luther disait par exemple que c'est le sermon de l'impossible, c'est-à-dire qui peut mettre en pratique une réalité aussi exigeante. Donc c'est un sermon de l'impossible. D'autres disaient c'est une ouverture pour les derniers temps, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas dans les derniers temps, on ne peut pas mettre en pratique tout cela. Ou bien, moi j'aurais envie de choisir le troisième, c'est un programme de conversion qui concerne tous les hommes et toutes les femmes, et pas simplement ceux qui sont dans les couvents, ceux qui sont religieux. Chacun est concerné, quitte à ne pas pouvoir accomplir dans la plénitude toutes ces exigences, mais ces béatitudes sont, la voie qui nous est donnée à chacun d'entre nous.
Alors justement, à ce propos, l'expression « royaume des cieux », dans l'évangile de Matthieu, il y a deux béatitudes qui évoquent le royaume des cieux au présent, alors que toutes les autres sont au futur. Si on est dans le futur, on pense peut-être à l'eschatologie, au royaume à venir. Mais si on est au présent, est-ce que ce n'est pas le royaume qui est déjà là ?
Oui, moi je pense qu'il faut garder cette dimension du présent. Même si c'est vrai que c'est exigeant quand on regarde ce qu'il y a là, on voit bien aujourd'hui à travers quelqu'un comme notre pape François, il essaie de faire prendre conscience à tout le monde que le royaume n'est pas quelque chose de facultatif, qui serait réservé à quelques-uns. Et là, il y a quelque chose qui est très ouvert d'une certaine manière. Le royaume, alors c'est difficile, c'est vrai, c'est exigeant, c'est vrai, mais il ne faut pas choisir la version. Luc nous donne une version un peu rude quand même, hein, en disant vous êtes pauvres maintenant, mais plus tard, vous serez récompensé. C'est un peu ce qu'on trouve dans la parabole du riche qui mangeait et qui laisserait entendre au fond que, et Luc laisse un peu entendre ça, qu'il y aurait au fond un retournement. Mm. Vous êtes pauvre maintenant, mais au royaume, vous serez riche. Il y a le retournement qui est prévu. Alors que Matthieu, de ce côté-là, est plus spirituel et il nous dit non, tout le monde est appelé à entrer dans l'homme, y compris les riches. Les riches doivent partager. Enfin, on n'a pas une perspective marxiste, on nous a souvent accusé d'avoir des béatitudes impossibles, quelque chose que personne ne peut pratiquer. Non, elles sont praticables. À nous de nous inscrire sur ce chemin, de nous mettre en marche, au fond. C'est une des traductions de certains auteurs. Vous vous rappelez que Chouraki avait traduit « en avant » ou « en marche », comme le mot a été repris dans un mouvement politique aujourd'hui, on ne peut plus utiliser ce mot pour l'appliquer à l'évangile, mais en avant, ça dit bien les choses. C'est ceux qui avancent, c'est ceux qui sont sur la route et qui mettent en pratique, au fond, les exigences que Jésus nous a données. C'est exigeant, mais c'est beau.
Alors, cette tension entre le présent et le futur, Jésus, dans une de ses paroles fameuses, l'a un petit peu évoqué, de façon même un peu paradoxale. « Mon royaume est dans ce monde, mais n'est pas de ce monde. »
C'est vrai. Et en ce sens-là, on serait tenté quand même de dire que celui qui est le plus spirituel, peut-être celui que l'on peut appliquer chacun pour notre part, c'est celui que vous avez dans Matthieu. Parce que regardez, quand Matthieu... Quand, si je prends l'une ou l'autre au passage, la première béatitude, qu'est-ce qu'elle évoque? Une conduite humble, douce et soumise. Et en vue de quoi? En vue du royaume de Dieu, c'est-à-dire une réalité future, eschatologique. Heureux les doux, c'est la même chose, c'est la douceur, c'est la patience, c'est l'humilité, c'est l'absence d'agressivité et de colère. C'est à la fois une vertu humaine et une vertu spirituelle. Vous voyez, tout cela est très, très fort dans Matthieu. Puis on pourrait continuer. Les affligés, ce sont ceux qui évoquent le chagrin à cause de l'absence du Christ. Il y a beaucoup de cette dynamique-là qui est affirmée à travers là. Puis la même chose, vous avez évoqué tout à l'heure la faim et soif de la justice. C'est le symbole de la recherche de la volonté de Dieu et de ses dons. Vous voyez, c'est tout cela que nous trouvons là avec... Ils sont rassasiés. Il y a toujours quelque chose qui vient dans le futur, dans tout cela. Puis les miséricordieux, bien, c'est peut-être le plus fort. Parce que qui est le miséricordieux? C'est Jésus. Le vrai miséricordieux, c'est Dieu. Dieu, c'est le miséricordieux. Et nous sommes invités aussi à être des miséricordieux.
Ah, il semble y en avoir une qui est mise un petit peu au-dessus. C'est celle qui dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est le seul moment où il y a cette désignation des fils de Dieu, bien sûr, en cohérence avec le royaume de Dieu.
Oui, je pense que ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que la justice, c'est là qu'on retrouve peut-être le décalogue. Le décalogue définit aussi des règles de justice entre les hommes. Tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Il y a toute une série de lois. La loi, c'est une protection devant la violence. Et la violence, c'est justement quand on sort de la loi. Et quand c'est la loi spirituelle, comme ici, bien sûr, c'est grandiose. C'est le texte le plus beau que l'Église n'est jamais donnée, et c'est celui-là qu'il faut que nous vivions, les uns et les autres, au fond, tous les jours de notre vie.
Alors, dans notre époque, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, il y a des lectures politiques qui ont été faites du texte des Béatitudes. Alors, effectivement, la critique marxiste de la religion y a vu l'opium du peuple, tandis que les théologiens de la libération y ont trouvé une justification du combat pour les pauvres et les opprimés. Est-ce que ce n'est pas finalement un peu paradoxal, voire réducteur, de lire les Béatitudes uniquement sous un angle comme ça ou l'autre,
hein? De toute façon, les Béatitudes, c'est tellement immense qu'on ne peut pas appliquer la totalité des Béatitudes. Et donc, dans le marxisme, c'est vrai que quand on regarde Marx, c'était quand même un beau projet aussi de faire un monde pacifié, un monde de fraternité, un monde de justice. Alors, le résultat nous a montré qu'on en était loin, finalement. Et la foi chrétienne aussi est quand même souvent en décalage par rapport à ce qu'elle devrait être. Et je crois que, à chacun de nous, ces béatitudes doivent ouvrir des chemins. Mais ne pas nous dire « ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi ». Non, chacun est invité à entrer dans ce chemin des béatitudes avec ce rêve, au fond, qu'au soir de notre vie, ben, nous serons autour du Seigneur, lui qui nous offre toutes ces béatitudes pour chacun de nous.
Nous voici arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir aidé à redécouvrir cet évangile des Béatitudes. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.